on commençait d'ordinaire par dépeindre sa figure et sa tournure. La mode était d'y mettre de la sincérité, ce qui ne veut pas toujours dire de la modestie. La célèbre duchesse de Châtillon prévient le lecteur qu'elle va lui parler avec une naïveté
la plus grande qui fut jamais. C'est pourquoi,
continue-t-elle,
j'ai pu dire que j'ai la taille des plus belles et des mieux faites que l'on puisse voir. Il n'y a rien de si régulier, de si libre, ni de si aisé. Ma démarche est tout à fait agréable, et en toutes mes actions, j'ai un air infiniment spirituel. Mon visage est un ovale des plus parfaits selon toutes les règles. Mon front est un peu élevé, ce qui sert à la régularité de l'ovale. Mes yeux sont bruns, fort brillants et bien fendus, le regard étant fort doux et plein de feu et d'esprit. J'ai le nez assez bien fait, et pour la bouche, je puis dire que je l'ai non seulement belle et bien colorée, mais infiniment agréable par mille petites façons naturelles qu'on ne peut voir en nulle autre bouche. J'ai les dents fort belles et bien rangées. J'ai un fort joli petit menton. Je n'ai pas le teint fort blanc. Mes cheveux sont d'un châtain clair et tout à fait lustré. Ma gorge est plus belle que l'aide pour les bras et les mains. Je ne m'en pique pas, mais pour la peau, je l'ai fort douce et fort déliée. On ne peut pas avoir la jambe ni la cuisse mieux faite que je l'ai, ni le pied mieux tourné.
La description de la personne physique était l'une des lois du genre. Personne ne croyait pouvoir s'en dispenser, par même les religieuses. On trouve parmi les portraits celui d'une abbesse qui fréquentait chez mademoiselle l'imposante Marie-Éléonore de Rohan, personne très estimée au rebours de sa mère, la fameuse duchesse de Bombazon, mais très déroutante. Tout de même pour nos idées modernes sur la vie monastique. Elle se partageait entre le cloître et le monde et suffisait à tout. Édifiante, quand il le fallait, vive et brillant le reste du temps, et aussi naturelle dans un rôle que dans l'autre. L'abbesse composait des ouvrages de piété pour ses nonnes. La morale de Salomon ou les paraphrases de sept psaumes de la pénitence. La mondaine se plaçait devant son miroir et écrivait sans l'ombre d'embarras
« J'ai quelque hauteur dans la physionomie et de la modestie. J'ai le nez trop grand, la bouche point désagréable, les lèvres propres et les dents ni belles ni laides. »
Ce nez trop grand choqua le savant Huet. Mis en demeure de refaire le portrait de Madame l'abbesse, il écrivit « Comme c'est une beauté à laquelle je suis fort sensible que celle du nez, trouvez bon, Madame, que je commence par le vôtre. Il est grand, mais de grandeur médiocre. Il est blanc, un peu aquilin, et rend votre riz fort spirituel. » Une autre phrase de Huet nous fait entrevoir les accommodements du costume monastique avec la coquetterie chez ces pseudo-religieuses dont l'espèce, qu'il n'y a vraiment pas lieu de regretter, était destinée à disparaître avec la réforme des couvents. « On ne peut imaginer, poursuivait le futur évêque, de plus beaux cheveux que les vôtres. Ils sont d'un blond cendré et frisé d'une manière fort agréable, et ils accompagneraient admirablement bien votre visage, à ce que j'ai pu juger quand ils se sont dérobés par hasard aux soins que vous prenez de les cacher. » Après le corps venaient l'humeur, les goûts, les qualités de l'esprit et ses défauts. C'est là que gît l'intérêt durable des portraits. Il est précieux de savoir de première main, par ses propres confidences, que cette société aristocratique de qui le roi allait exiger le sacrifice complet de son indépendance ne haïssait rien tant que la contrainte et ne se gênait pas pour le dire. Hommes ou femmes, tous ceux qui parlent pour eux-mêmes en reviennent toujours là et presque dans les mêmes termes. Je hais la contrainte m'est insupportable, j'ai aversion pour tout ce qui s'appelle contrainte, je souffre impatiemment l'oppression et j'aime passionnément la liberté. Au point de vue de la monarchie absolue et de la discipline qu'elle impose à une cour, la noblesse française avait de bien mauvaises habitudes. Elle professait l'amour des vertus chevaleresques et la haine de tout ce qui ressemble à bassesse ou déloyauté. En quoi elle était sincère, à condition d'admettre que les opinions des hommes sont changeantes, même en morale, et que nous aurions aujourd'hui de la peine à nous entendre avec un gentilhomme de 1660 sur ce qui est loyal ou bas et ce qui ne l'est pas. L'honneur lui commandait de venger ses offenses sans regarder de trop près aux moyens. L'usage l'autorisait à être injuste et de mauvaise foi avec les petits et les faibles, en particulier lorsqu'il leur devait de l'argent. La probité était une vertu bourgeoise. Mademoiselle trouvait indigne que les gens de qualité abusassent de leur autorité pour ruinée de misérables créanciers. Mais elle était parmi les exceptions. Le droit d'avoir de l'honneur s'étendait à toutes les conditions. Vatel fut loué de s'être tué parce que la marée n'arrivait pas.
« On dit, »
écrivait Madame de Sévigné,
« que c'était à force d'avoir de l'honneur à sa manière. »
Il n'en était pas de même d'un autre sentiment qui remplit le théâtre de Corneille et dont il est continuellement question dans tous les écrits du temps. Le consentement général réservait aux gens de qualité le privilège d'avoir de la gloire, de la belle, de la vraie. Celle qui
portait,
selon la définition de Huet, à désirer les grandes choses. La vraie gloire, que l'on distinguait avec soin de ce que nous appellerions la gloriole, était le sentiment aristocratique par excellence. Même parmi les auteurs des portraits, tout le monde ne se permet pas de la voir. Il y avait encore dans cette brillante société beaucoup de très honnêtes femmes, malgré le train licencieux que prenait la jeune cour. Toutefois, il manquait à la vertu d'être suffisamment en honneur. Elle restait affaire de goût personnel. La noblesse n'y attachait en général qu'une importance secondaire et de toute convention. Les femmes sages, ou présumaient-elles, en recevaient des louanges dans les portraits dus à des plumes amies. Les autres n'en étaient pas plus mal vus, sauf par les jansénistes et autres esprits chagrins. La jeune comtesse de Fiesque, avec qui mademoiselle s'était brouillée à Saint-Fargeau, avait une réputation bien établie de galanterie. L'auteur anonyme de son portrait y fait allusion et s'empresse d'ajouter « Véritablement, cela ne lui fait point de tort. » Aucun tort, en effet. Mademoiselle n'y pensa même pas quand Madame de Fiesque vint lui demander pardon de ses impertinences.
Elle se jeta à genoux devant moi. Je la relevai en l'embrassant. Elle pleura de joie. C'est une bonne femme, de ces esprits qui se laissent entraîner, mais dont le fond est bon.
Par un juste retour, les hommes parlaient fort librement des femmes. On croirait entendre chanter des coqs. Un anonyme qui pourrait bien être le poète Racan, se représente très laid, très bègue et très puant, très maussade par-dessus le marché et très menteur. Et il poursuivit. Je suis fort effronté parmi les femmes et aussi entreprenant que si j'avais toute la bonne mine et tout l'agrément du monde pour me faire bien recevoir, je m'en suis bien trouvé quelquefois, tel que vous me voyez. Il y a encore plus de mépris pour la femme dans le passage suivant du portrait de La Rochefoucauld par lui-même. Pour galant, je l'ai été un peu autrefois. Présentement, je ne le suis plus. Quelque jeune que je sois, j'ai renoncé aux fleurettes. Je m'étonne seulement de ce qu'il y a encore tant d'honnêtes gens qui s'occupent à en débiter. Voilà qui est dur pour Madame de Longueville. Je ferai remarquer en passant que La Rochefoucauld avait 45 ans au moment où il se trouvait si jeune pour renoncer aux fleurettes. Cependant, Molière allait bientôt faire rire tout Paris aux dépens d'Arnolphe, qui se mêle encore d'aimer à 42 ans. Faut-il en conclure que Molière avait entrepris d'abaisser la limite d'âge de l'amour? Ou bien était-ce seulement au théâtre que la mode exigeait des amoureux jeunes? Je laisse la question à de plus habiles. Elle n'est pas sans importance pour l'histoire des sentiments. La mode des portraits ne dura guère que 2 ans chez ceux qui en avaient été les parrains. Sitôt qu'elle eut gagné la bourgeoisie, les gens de qualité l'abandonnèrent. Le goût très vif, qui prirent à leur tour les classes moyennes, fut un service rendu aux lettres. Les imitateurs de la galerie apprirent à ce jeu, comme auparavant les créateurs du genre, à connaître l'intérieur des gens. Leurs anatomies du cœur, toutes imparfaites qu'elles fussent, les habituaient à discerner les qualités et les humeurs des personnes. Et il se formait ainsi un grand public préparé à comprendre les femmes de Racine. Mademoiselle fut la première à profiter des études d'âme qu'elle avait mises en faveur. Il lui en resta un tour de main qui est très sensible dans la portion de ses mémoires écrites après 1660. Le progrès est également marqué dans un petit roman à la clé intitulé « Histoire de la princesse de Paphlagonie » qui fut composé et imprimé à Bordeaux en 1659 pendant l'arrêt prolongé de la cour. Ce n'est point la seule œuvre d'imagination qui soit sortie de cette plume facile, c'est la seule qui vaille qu'on en dise quelques mots. Le sujet est sans intérêt, mademoiselle a mis en compte bleu les fastidieuses querelles de son domestique. J'en fis une petite histoire qui fut achevée en 3 jours, à écrire 1 heure ou 2 heures le soir, quand je revenais de chez la reine. En récompense, il y a dans la princesse de Paphlagonie des croquis d'après nature, d'un trait vif et ferme, qui est une nouveauté chez mademoiselle. Un passage sur la chambre bleue de Madame de Rambouillet sera d'un grand secours pour restituer un intérieur élégant sous Louis XIV, si l'on n'essaie jamais, comme il a été proposé, de jouer les comédies de Molière dans la vraie chambre de Philaminte ou de Célimène. D'autres nous ont parlé de la pièce où recevait Madame de Rambouillet. Ils nous en ont décrit le décor harmonieux et le désordre savant. Personne ne nous a rendu comme mademoiselle l'atmosphère intime du sanctuaire avec son jour mesuré et discret, son luxe de fleurs, ses objets d'art et sa petite bibliothèque de choix. Disons les goûts et les préférences de la divinité du lieu. Cela ressemble bien plus au salon d'une femme intelligente du XXe siècle qu'à une pièce du château de Versailles.